Le jeudi après-midi, Fabrice conta les relations entre deux amis, le héros et Saint-Loup, dans un décor militaire. Elle semblait croquignolette, tant le jeune civil y est comme un cheveu sur la soupe, ou, pour détourner une formule entendue dans la séance de l'après-midi, comme d'un libre penseur faisant un dîner exquis dans un presbytère. Il minaude d'exquise façon. Ah, Robert, qu'on est bien chez vous. Comme il serait bon qu'il fût permis d'y dîner et d'y coucher. Ce qui lui vaut cette réaction rieuse. Ah, vous aimeriez mieux coucher ici près de moi que de partir seul à l'hôtel. Ce à quoi il répond. Oh, Robert, vous êtes cruel de prendre cela avec ironie, lui dis-je, puisque vous savez que c'est impossible, que je vais tant souffrir là-bas. On se croirait au bal des débutantes, jugea sévèrement le banlieusard qui se noyait dans les baignoires. Plus loin, vient un échange pas moins ému sur l'usage du tu et du vous. Cela vous ennuierait-il que nous nous tutoyons? Comment m'ennuyer, mes voyants? Joie, pleurs de joie, félicité inconnue. Ah, comme je vous remercie, te remercie. Ah, Robert, comme je vous aime. Vous êtes gentil de m'aimer, mais vous le seriez aussi de me tutoyer, comme vous l'aviez promis, et comme tu avais commencé de le faire. C'est la cage aux folles, corrigea un autre banlieusard. Impression consolidée quelques minutes plus tard, quand on apprend plus sur le chic du sous-officier, maréchal des logis précisément, marquis à la jolie figure. Sa façon dégingandée de marcher, de saluer, le perpétuel lancer de son monocle. La fantaisie de ses képis trop hauts, de ses pantalons d'un drap trop fin et trop rose. Du rose pour faire la guerre. Une mode à lancer reprendra l'aquatique banlieusard. La remarque tombait à pic, car allait être racontée une savante explication de tactique militaire. C'était un passage, et il y en aurait d'autres, que Fabrice redoutait. Pour dire les choses, il avait eu beaucoup de mal à apprendre ces longues et savantes tirades, celles-ci délivrées par Saint-Loup, au point d'envisager un subterfuge pour faire dire ces passages par d'autres. Mais il n'y avait aucune logique dans cette fuite, et il dut s'appliquer comme pour le reste de l'œuvre. Il n'en restait pas moins qu'il ne prenait aucun plaisir à dire ses commentaires guerriers, se terminant ce jour-là par « La défense n'est que le prélude de l'attaque et de la victoire ». Il était venu à bout de ce qu'il considérait comme un pensum, au milieu de tant de pages gratifiantes qui l'éblouissaient. Le moment était arrivé de profiter du buffet, qui se révéla aussi ébouriffant que celui de la veille, mais proposé cette fois par Hédiard. Fabrice goûta le carré d'agneau du Pays d'Oc rôti au thym et polenta dorée aux tomates confites et artichauts poivrades, plutôt que le suprême de poulet fermier mariné au gingembre, curcuma grillé et noix de coco. La séance reprit, repu de peu. Fabrice revint, l'air impassible, mais il était intérieurement bougon, car la punition n'était pas terminée. Le héros, si fluet et si peu martial, se prend de passion pour l'art de la guerre, impose de longs développements militaires qui n'enchantaient pas le raconteur. Le défi était de taille de mettre autant d'intérêt que sur les aspects autrement plus passionnants, selon lui, de l'œuvre. Les états d'âme valaient mille fois les états de service. Et les approches amoureuses l'emportaient de loin, sur les manœuvres stratégiques, les querelles de couple sur les combats armés, les réconciliations hommes-femmes sur les armistices, les champs de fleurs sur les champs de bataille et la mode féminine sur le mâle uniforme, même avec des touches roses. Il fit donc bonne figure avec les instructions de Napoléon à Lannes en 1806, l'enveloppement par le nord de Mack à Ulm, l'effroi provoqué par la charge de cavalerie, les progrès de l'artillerie et les exemples interchangeables que furent en 1870 la garde prussienne à Saint-Privat, les Turcos à Frochwiller et à Wissembourg. Le chapitre prit enfin fin